J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre
en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette 12e émission de Palabre en forêt sur Radio Barthas 107 FM. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter quelqu'un, une nouvelle venue. Et après, nous rejoindrons Aymeric Sulmont, garde-moniteur du Parc National, pour sa fameuse rubrique « Plante des bois ». Alors, cette nouvelle venue, il s'agit de Lucille. Lucille Sauquet.
Bonjour.
Alors, tu es basée à Florac et donc tu prends la suite de Nathalie Tremel. Donc, tu es ma nouvelle acolyte.
C'est ça.
Voilà. Et donc, tu es chargée de mission à la charte forestière du PETR Sud de Lozère. Et du coup, ben, on vous propose aujourd'hui que tu te présentes. Alors, Lucille, comment es-tu arrivée du coup sur la charte forestière? Et depuis quand?
Nathalie, l'ancienne animatrice, est partie et du coup, il y avait une offre diffusée par le PETR, donc j'ai répondu. Et voilà, moi, je voulais vraiment me rapprocher de la gestion de la conservation des milieux forestiers.
Et alors, quelle formation tu as suivie?
Bah, j'ai un parcours assez long, on va dire. L'année dernière, j'étais à Florac, donc j'ai repris mes études l'année dernière. Et j'ai plutôt un bagage de biologie. Et en spécialité dans l'agronomie, voilà, tout ce qui est biologie végétale et animale.
D'accord. Tu étais peut-être à Supagro alors?
J'étais à Supagro Florac, voilà, en licence GENA. Donc j'ai pu apprendre un petit peu à mixer l'agriculture et la gestion de l'environnement.
D'accord. Et alors, tu as fait peut-être un stage de fin d'études et
oui.
Tu étais du côté d'Anduze, c'est ça?
C'est ça, avec un bureau d'études qui est en SCOP, qui s'appelle Agrouf. Et donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'agroforesterie. Et mon sujet d'étude, c'était la valorisation des arbres agroforestiers. Donc, d'accord. C'était une étude qui était régionale, donc l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc, j'ai également travaillé un petit peu en Lozère. J'ai pu rencontrer des scieurs, etc. Et du coup, voilà, de voir comment, dans la filière bois de notre territoire, on pouvait valoriser ces arbres-là. Et j'ai également, dans le cadre de la licence GENA, pu faire un petit stage d'immersion à l'ONF, à Florac.
Ah oui.
Donc voilà, donc j'ai aussi pu découvrir déjà l'année dernière le territoire forestier de la charte.
Ah
du
bah
coup,
super. Hein. Ouais. Et alors du coup à l'ONF, qu'est-ce que tu as pu avoir comme mission?
Alors là, c'était vraiment un stage d'immersion professionnelle. Donc j'ai pu découvrir vraiment la gestion des parcelles forestières, comment dans la sylviculture de l'ONF, comment est-ce qu'ils géraient ces milieux forestiers. Et surtout le renouvellement, voilà, comment on coupe les arbres, lesquels on sélectionne, lesquels on laisse, et voilà, sur les futaies régulières, irrégulières, etc. Quoi.
Ok, pleine immersion forestière. Et alors, quelle est ta définition pour toi d'une charte forestière de territoire?
Alors, pour moi, une charte forestière de territoire, c'est de la gestion et de la conservation des milieux forestiers au service d'un développement local et territorial. Et donc, à ce titre-là, c'est porté par des élus qui vont donner les grandes stratégies de développement du milieu forestier pour le développement local des territoires, donc développement social, économique et forestier, forcément.
Ok. Et alors, tu peux, donc, à Anduze, tu as déjà travaillé sur l'agroforesterie. Tu peux nous parler un petit peu, peut-être, de ton rapport avec les arbres ou ton rapport avec la forêt?
Sacrée question. Ma réponse pourrait être très, très spirituelle, j'ai envie de dire. Non, la forêt, les arbres, pour moi, c'est vraiment, je vois ça vraiment comme des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants, donc j'ai un rapport assez... assez respectueux vis-à-vis d'eux. Et pour moi, il y a vraiment une connaissance qui doit être légitime vis-à-vis de ces êtres-là. D'apprendre à les connaître, à savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils poussent, comment est-ce qu'ils se renouvellent, de manière à pouvoir justement les gérer durablement. Surtout dans les, à l'heure actuelle avec les problématiques de réchauffement climatique, en tout cas de changement climatique. Et en même temps, de pouvoir intégrer la forêt avec nous, la société, ça veut rien dire.
Non mais je sais si. Comment concilier l'activité humaine
comment concilier
et
voilà le c'est voilà ce milieu forestier et nous les humains voilà donc c'est voilà je pense qu'il faut faut bien les connaître pour vraiment les gérer durablement dans le temps vraiment à long terme et que du coup ça puisse être pour nous un profit en tout cas voilà ça peut je sais pas comment dire
un bénéfice
voilà ça peut être voilà un bénéfice dans nos vies de tous les jours.
Et est-ce que tu as une forêt préférée ou une essence préférée ?
Sur le territoire, j'ai adoré deux forêts. C'était la forêt de Fontmort.
C'est où ?
C'est derrière.
À Florac ?
Oui, c'est à Florac. Oui, dans le territoire de la Charte forestière Sud-Lausanne. C'est la forêt de Fontmort. Je la trouve vraiment exceptionnelle par sa diversité d'essences. Il y a vraiment.
Qu'est-ce qu'on y trouve un petit peu ?
Bon, il y a des résineux, forcément, des pins, donc du douglas, des sapins, du laricio, du sylvestre. Et en même temps, il y a beaucoup de feuillus, châtaigniers, hêtres, frênes. C'est vraiment une forêt très, très magique par cette diversité-là. Et il y a aussi la forêt de l'Aigoual, qui, à contrario, est plutôt, enfin, là où j'ai été est plutôt en hêtraie, mais c'est aussi complètement magique de voir tous ces hêtres et cette dimension-là.
Et oui.
Voilà, petit coup de cœur pour les deux, assez différentes. Et mais,
Puis la forêt de l'Aigoual, du coup, labellisée forêt d'exception au niveau national. Et ouais, c'est pas rien. Belle forêt. Et quelles vont être alors tes principales missions sur cette année 2021 ?
Alors, cette année, pour la charte Sud-Lozère, il y a pas mal de choses qui vont changer. On est sur la fin du plan d'action 2018-2020. Et donc, à l'issue de cette fin de plan d'action, il va y avoir l'évaluation. Donc, voir un petit peu avec tous les partenaires et les élus, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, comprendre un petit peu comment s'est déroulé tout ça. Et la réponse à l'appel à projet qui est sortie récemment. Donc, en fait, là, il va falloir monter le dossier pour continuer de mettre en place une charte forestière de territoire pour les 3 prochaines années. Donc voilà, il va y avoir l'évaluation, le nouveau plan d'action et bien évidemment l'animation du plan d'action actuel. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place et qui vont se dérouler cette année. Donc c'est des super nouvelles pour la charte forestière. Voilà, j'espère qu'elle sera pérennisée pour les prochaines années avec des financements.
D'accord. Et est-ce que c'est le PETR Sud-Lozère alors qui va porter toutes les actions ?
Oui. Ah non. Non.
Question piège.
Non. La charte forestière Sud-Lozère, il y a à peu près, actuellement, il y a une quarantaine de partenaires. Mm-hmm. Donc financiers, institutionnels, de forêts privées, publiques, etc. Donc il va y avoir plusieurs acteurs qui vont pouvoir porter les différentes actions qu'on met en place et qu'on mettra en place. Voilà, donc le PETR... avec donc moi, l'animatrice de la charte, moi je suis vraiment là pour coordonner et collaborer sur toutes les actions et d'être un petit peu le relais entre ces différents acteurs et les différentes actions à mettre en place. Voilà. Mais je reste pour le moment, a priori, la charte forestière Sud-Lozère reste au POTR, oui.
D'accord. Et du coup, dans les actions en cours, puisque tu nous dis que le plan d'action est pas encore fini, celui actuel, est-ce qu'il y a déjà une action ou plusieurs qui te motivent particulièrement ?
Alors, je dirais il y en a 3, particulièrement sur les scieries, sur justement la transmission, la pérennisation des entreprises de la filière. En particulier les scieries. Sur le sylvopastoralisme, voilà, c'est vrai qu'en agroforesterie, moi, c'était un petit peu...
Tu peux nous dire ce que c'est le sylvopastoralisme ?
Alors, le sylvopastoralisme, donc, c'est du pastoralisme, c'est-à-dire une gestion extensive des troupeaux, donc, c'est-à-dire le pâturage sur des espaces très grands. Mmh. Et le sylvo, c'est-à-dire que le pâturage se fait dans des milieux forestiers, donc des landes ou des forêts... ou des forêts. Donc voilà, c'est un petit peu pouvoir concilier agriculture et gestion des milieux forestiers.
Et la troisième ?
Et la troisième, c'est plutôt en termes d'écologie sur la trame de vieux bois avec les propriétaires forestiers. Voilà, mettre en place un petit peu plus de diversité et
Là aussi, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, trame de vieux bois.
Alors, trame de vieux bois, ça se traduit par différentes actions, on va dire concrètes. Par exemple, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des îlots de sénescence, c'est-à-dire qu'on va, on va sélectionner une parcelle ou un groupe d'arbres et on va les laisser vieillir, tout seul, sans les toucher. Et de cette manière-là, en fait, il y a tout un écosystème, et donc une écologie qui va se mettre en place avec des petits insectes qui vont dégrader le bois mort, etc. Et donc, un équilibre va pouvoir se faire et conserver un petit peu ces espaces.
Et du coup, pour achever ta présentation, est-ce que tu aurais un petit mot forestier à ajouter ?
Alors, comme je ne suis pas une vraie forestière, je vais tricher. Donc, mon petit mot forestier, c'est écoute l'arbre et la feuille. Donc, je triche parce que c'est le titre d'un livre. C'est ça le truc. Mm-hmm. Et puis, j'aime bien ce titre-là, écoute l'arbre et la feuille. C'est un petit peu, je trouve, le résumé de nos métiers à toi et à moi, du coup, de travailler à cette interface-là. Et donc c'est un livre qui est vraiment super, c'est de David Haskell. Mm-hmm. Et en fait, il nous fait une immersion dans la forêt, il nous décrit vraiment tous les bruits qu'il y a dans la forêt, les gouttes d'eau qui tombent sur les feuilles, etc.
Merci. Pour mettre en œuvre une politique forestière, il faut déjà bien observer la forêt.
Voilà, exactement, c'est ça.
Merci Lucille.
Merci Virginie. Corto est prêt, nous allons faire une petite pause musicale avec Young Tree de Grandition.
Down, limb from limb, say. Et maintenant, nous accueillons en studio Aymeric Sulmon, qui est garde-moniteur au Parc National des Cévennes pour un nouveau rendez-vous de Plantes des Bois, au sujet d'une plante, un champignon, un lichen. Bonjour Aymeric.
Oui, bonjour.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, sur proposition de Virginie, je vais vous parler de la fougéraigle.
Ah, très bien.
Alors, dis-nous tout.
Eh bien, écoutez, la fougéraigle, tout le monde la connaît. C'est cette grande fougère qui envahit les sous-bois de châtaigniers, notamment tous les endroits où il y a une roche plutôt acide, comme le granit, le schiste, le grès. Et c'est une fougère qui n'est pas bien aimée. Pourtant, si on s'inspirait un peu des anciens, les anciens disaient il faut transformer l'abondance en richesse. Et les premiers usages en fait de la fougère, c'était de faire des litières avec. Mais des litières pas seulement pour les animaux, des litières aussi pour l'homme. Et on faisait des matelas en fait avec la plupart des fougères.
Incroyable.
Et il semblerait que la fougère, en séchant, alors c'était pas forcément la fougère qui était utilisée, mais la plupart des fougères en séchant émettent une odeur qui est plutôt soporifique, qui aide à dormir. Donc
C'est parfait.
Ça a donné le nom à la fougère mâle, la fougère mâle qui aidait à dormir les petits garçons. Et on faisait une litière avec la fougère femelle pour aider les petites filles à dormir. Ça, c'est la petite anecdote pour les usages anciens. Aujourd'hui, la fougère règle, c'est une plante qu'on trouve gênante parce qu'elle nous envahit, on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Ça forme des massifs très très étendus de plusieurs hectares et de 2 à 3 mètres de haut. Et quand il s'agit de cultiver ces terrains-là, c'est pas évident. Et donc il y a plein de techniques pour s'en débarrasser. Il y a aujourd'hui des gens qui ont inventé des systèmes de rouleaux qui écrasent les fougères sans les couper, et ça permet en fait d'affaiblir la plante. Et si c'est reproduit plusieurs années de suite, on peut espérer changer une lande à fougères en prairie de fauche, puisque c'est un peu les projets qu'on peut faire sur une zone où il y a de la grande fougère. Et il faut bien se rendre compte que quand il y a énormément de fougères, en fait, ça signale des terrains profonds. Et les terrains profonds sont des terrains souvent intéressants pour planter des arbres. Voilà. Donc si vous avez des grandes zones à fougères, plutôt que d'imaginer une prairie, pourquoi pas planter des arbres fruitiers ou qui vont avoir du sol profond et donc une bonne réserve en eau. Alors la fougère aigle, pourquoi elle s'appelle fougère aigle ? Il y a plusieurs réponses et moi je trouve qu'il y a des réponses qui sont un peu farfelues. Et la réponse la plus farfelue mais qui marche en partie, c'est quand on prend une fougère aigle et qu'on coupe la section de la tige, on fait une section de la tige et qu'on regarde cette section, il y a, si on a un peu d'imagination, un aigle à deux têtes qui apparaît. Alors ça, c'est assez curieux, mais je vous laisse faire l'expérience au printemps. Quand vous verrez la fougère aigle, vous couperez une section, vous regarderez. Moi, j'ai pas trouvé que ça marchait bien. Mais si on regarde tout simplement une fougère qui est en train de pousser, au départ, elle fait une jolie crotte. Et ensuite, elle s'étale. Et quand elle s'étale, ça ressemble assez clairement à un oiseau qui est prêt à s'envoler. Voilà, et puis dernièrement, on m'a envoyé une photo de... C'est Alain Renaud qui m'a envoyé une photo de vœux qui était une fougère aigle. Et en fait, tout au début, quand elle s'épanouit, la fougère a quand même une allure assez jolie. Et là, il avait mis en évidence, ça donnait l'impression d'un petit personnage qui enfermait dans ses bras quelqu'un. Donc ça peut être assez joli, la fougère, si on regarde de près.
D'accord. Alain Renaud, on rappelle, ethnobotaniste du côté des vallées Cévenoles, fameux ethnobotaniste.
Oui, qui habite du côté de Saint-Jean-du-Gard, Sainte-Croix-de-Caderne, ce coin-là, qui a été l'auteur d'un ouvrage fantastique qui s'appelle Le savoir en herbe. Mm-hmm. Et voilà, il a plein d'anecdotes sur l'usage des plantes, notamment cette anecdote dont je parlais, c'est que les anciens savaient transformer l'abondance en richesse. Sur toutes ces plantes qui nous envahissent, comme la fougère, le genêt, le buis, ils avaient toujours un usage qui permettait un peu de limiter leur extension. Voilà, que dire de plus sur la fougère ? Que certains, et je déconseille l'usage, c'est que certains la mangent quand elle est toute jeune. Ils la font cuire dans plusieurs eaux, on appelle ça blanchir les jeunes crosses. Mais visiblement, ce serait un peu cancérigène sur les bords. Donc, il vaut mieux limiter, s'abstenir de cet usage-là. Et sinon, ça peut avoir des propriétés insectifuges. On le retrouve encore dans les ruchetrons. Quand on visite des ruchetrons, on trouve encore sur des vieilles ruches, des touffes de fougères qui ont été ramassées et posées sous la ruche ou par-dessus la ruche. Il semblerait que ça a des propriétés insectifuges, donc soit d'éloigner des fourmis qui pourraient un peu parasiter la ruche, soit d'autres insectes.
Et comme le varroa aussi peut-être ? Non.
Le varroa, je pense pas, c'est quand même des usages assez anciens, mais bon.
Okay.
Voilà, disons que c'est un usage que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Le fait que c'est les grandes zones à fougères, mais c'est comme le cas des grandes zones où il y a des grands fourrés, dans des zones où les animaux vont se, comme les sangliers vont se cacher, sont des zones qui concentrent parfois les tiques au printemps. Alors, dans notre région, il y a certains endroits, notamment les fonds de vallon qui restent assez humides, où les tiques peuvent être assez présents. Mais on est encore loin des ambiances des Pays Basques ou des Pyrénées où on a vraiment des zones à fougères effectivement très très riches en tiques. Et donc ça peut être gênant. Donc faut toujours faire attention quand on circule dans les zones à fougères, on peut rencontrer ces bêtes qui transmettent des sales maladies. Voilà, que dire de plus, pourquoi la fougère est si abondante parmi les autres fougères, c'est quand même parmi les 60 fougères en fait qui vivent en Cévennes. C'est la seule qui est très très abondante et pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une des seules qui se multiplie sans avoir une dépendance forte à l'eau. C'est-à-dire qu'elle se multiplie par rhizome de manière végétative et c'est pour ça qu'elle colonise des grandes étendues de terres profondes qui autrefois étaient peut-être cultivées en prairies.
Un peu
et
comme le bambou.
Elle a donc une indépendance face à l'eau quoi, que n'ont pas les autres fougères.
Okay.
Toutes les autres fougères ont besoin d'une période de l'année qui est saturée en eau, de façon à ce que la reproduction puisse se permettre, se faire.
De se faire.
Donc voilà un peu quelques explications sur cette fougère règle. Je ne sais pas si je vais aider à l'aimer, mais au moins à mieux la connaître.
Oui, tout à fait.
Est-ce que justement, t'as préconisé d'écraser les fougères pour les atténuer, c'est ça?
Ouais.
Oui. Est-ce que justement, dans des pratiques de sylvopastoralisme, le piétinement des animaux pourrait être suffisant?
Ah ouais, c'est vrai, ça devrait être.
Oui, notamment tôt au printemps, le passage des troupeaux sur les fougères très fragiles, ça peut vraiment les fatiguer si elles se multiplient plusieurs fois dans le printemps.
Ah,
d'accord.
Ouais.
Et ça, c'est utilisé.
D'accord, parce que les animaux ne mangent pas les fougères, même les chèvres non plus.
Non, c'est pas conseillé. Mais si on les fait passer en troupe, en masse, on peut vraiment aider à briser. Il y a une autre pratique qui est utilisée, c'est quand même accepter que la fougère est là et se rendre compte que dans certains coins, il y a de l'herbe qui pousse sous la fougère.
Oui.
Et que ça peut être en partie intéressant en été, quoi. C'est que la fougère fait un abri pour de l'herbe qui pousse en dessous, qui est pas négligeable à voir.
D'accord. Donc oui, il y a un juste milieu avec les fougères à trouver.
Oui, et puis alors ce qu'il faut vraiment déconseiller, c'est de les brûler systématiquement parce que...
Ça les ravive.
Certes, on va apporter de la potasse, la fougère va amener beaucoup de potasse au sol, mais à chaque fois qu'on brûle, on réduit la matière organique du sol, donc on réduit la capacité du sol à retenir de l'eau, et finalement on assèche le sol, la fougère a des longs rhizomes, elle adore qu'on la crame en fait.
D'accord.
Et plus on la crame, et plus on va avoir des landes à fougères qui n'ont plus que de la fougère et plus d'herbe.
Ah, oui.
Donc l'idéal, ce serait de faucher et d'exporter, si on veut aider à ce que de l'herbe pousse sous la fougère. C'est-à-dire fin d'été, ou même en courant d'été, on fauche tout et on exporte, on amasse loin de cette zone-là, et l'herbe peut pousser là-dedans. Mais si on laisse la litière de la fougère... courir sur place, et elle entretient elle-même la fougère.
Ah oui,
c'est un
cercle vicieux.
Et la plantation d'arbres, est-ce que ça peut créer une forte compétition et les fougères pour les atténuer aussi?
Et oui, en fait, j'ai oublié de le préciser, la fougère, c'est une espèce qui aime la lumière. Donc c'est pour ça qu'elle peut former des landes monospécifiques de fougères. Mmh. Et elle est assez caractéristique de ces vergers clairs, genre les vergers de châtaigniers où on peut avoir beaucoup de fougères dessous, mais parce que c'est clair.
D'accord.
Et si vous avez une forêt sombre, ben vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de fougères dans ce genre de forêt.
Ah oui, d'accord.
Donc de là à dire que oui, les arbres vont aider à limiter la fougère au fur et à mesure des années, évidemment.
D'accord. À moins de trouver un débouché, une nouvelle filière, matelas en fougère, en Lozère. Mais il dit Lozère.
C'est une idée. Je lisais un truc dans des bouquins que j'ai à la maison, il disait le matelas de fougère serait meilleur pour la santé que le matelas de plume.
Ah oui.
Il est probablement moins allergisant en tout cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au matelas de plume.
Ouais. Et puis tu as parlé de l'effet soporifique.
Eh ben oui, ça c'est pas négligeable.
Ah ouais.
C'est aussi purgatoire. Enfin, les fougères étaient utilisées comme vermifuges, donc il y a plein d'intérêts finalement ces fougères.
Oui, d'accord. Passionnante ces fougères.
Ah bah oui. Ouais. Comme toujours. Merci Aymeric.
Eh ben à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Barthès 107FM
et cette émission de Palabres en forêt s'achève. Et on vous proposera désormais un coin petite annonce. Et l'idée sera de relayer tous les messages de transmission reprise
des professionnels forêt-bois de nos territoires.
Voilà. Et du coup, on vous propose pour cette première annonce de se rendre sur le site internet de relanceseven.fr, qui est le site de transmission reprise en Cévennes. Et voilà, on a trouvé du coup en ce moment une première annonce.
Il s'agit d'un atelier de fabrication et de poste de menuiserie. Donc c'est basé sur la commune proche de Saint-Jean-du-Gard. Donc c'est un monsieur qui part à la retraite, donc il y a une entreprise et donc un local à récupérer.
Et donc c'est un local qui appartient à la commune et c'est donc un loyer de 535 € par mois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'atelier ? C'est un atelier de 200 m², voilà, tout aux normes, avec du stockage. Et sur le site de relanceseven.fr, vous trouverez une petite vidéo qui vous présente l'entreprise. On peut vous donner le contact.
Il s'agit de Relance Cévennes à l'antenne d'Alès. Et le numéro est le 04 66 56 50 82.
Si vous êtes intéressé aussi pour une installation, ben sachez qu'il y a deux zones d'activité. Et notamment le site lozerenouvellevie.com recense les zones d'activité. Il y en a du coup... sur Florac, sur Saint-Étienne
Française, Saint-Privat-de-Valongue et Saint-Maurice-de-Ventalon.
Voilà, et là le contact c'est
Thomas Etier au 06 33 50 72 52.
Et merci du coup pour cette émission qui s'achève et on vous retrouve dans un mois.
À bientôt.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud. Mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabres
en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthès 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.